Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Halud Mouni. Chienne Berry, Siki Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à l'insécurité alimentaire. Le contexte humanitaire reste préoccupant suite à une conjoncture sécuritaire dégradée dans les régions du nord et du centre du pays. C'est ce qui ressort d'un rapport d'OCHA sur la situation humanitaire au Mali. Intitulé « Aperçu des besoins humanitaires », le document révèle que l'insécurité alimentaire touchera plus de 22% de la population malienne en 2018 contre 19% en 2017. Nos invités sur ce plateau, Outi chef du bureau OCHA au Mali, Abdul Wahab Aïdara, chef secteur agriculture dans Songo, Mohamed Ali Nyang, socio-entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, Mamadou Djouara, sociologue. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Une situation alimentaire préoccupante en 2018 selon OCHA. Madame Outekoulis, vous êtes la chef du bureau de coordination de l'action humanitaire au Mali. Pouvez-vous nous faire l'état de la situation?
Oui. Tout à fait. Quand nous avons développé le plan de réponse humanitaire pour 2018, on a fait l'analyse ensemble avec tous les acteurs. Ici au Mali, on participe avec 140 partenaires dans cette analyse. Ça veut dire que ce sont des ONG nationales, internationales, mais aussi des agences de l'ONU. Seulement pour vous dire, inclut même les membres du gouvernement, des différents ministères. Ça veut dire que cette analyse est basée sur la compréhension de tous ces acteurs-là. Qu'est-ce que nous avons constaté depuis 2016? Malheureusement, la situation a détérioré, même si on a eu la signature de l'accord de paix il y a plus que 2 ans, et on a attendu une amélioration. Ça veut dire une amélioration dans la situation sécuritaire, la protection des civils, et certainement une amélioration en ce qui concerne le mouvement des populations. Ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des réfugiés maliens restent encore dehors du pays. On parle aujourd'hui d'environ 133 000 maliens qui restent encore au Burkina, Niger et la Mauritanie, même si l'accord tripartite entre les pays, le HCR et le gouvernement du Mali était signé. Mais malheureusement, la situation n'est pas encore propice pour inviter ces réfugiés de rentrer. Si vous regardez la situation dans le nord et le centre du pays a dégradé ce qui concerne la sécurité. Vous avez bien cité déjà, certainement dans les cercles de Tenenku, Yovaro et Douensa par exemple, on a une augmentation des clôtures des écoles. Ça veut dire plus des enfants restent dehors des écoles, plus des enfants sont déscolarisés. Ça c'est un premier constat. Nous parlons aujourd'hui d'environ 300 000 enfants qui sont dehors de l'école dans le centre et le nord du pays. Mais on mesure aussi 2 choses si on parle de l'éducation. C'est une côté, c'est l'accès à l'éducation, mais aussi la qualité. Okay. Deuxième chose, nous avons vu, selon les résultats du cadre harmonisé en novembre 2017, que malheureusement, les besoins dans la sécurité alimentaire et la malnutrition ont aussi augmenté. Aujourd'hui, on parle de 4 100 000 personnes qui seront au besoin, et ça veut dire dans le domaine de la nutrition, le taux global de malnutrition aiguë était environ 10,7% en 2017, et pour 2018 on estime environ 165 000 enfants seront en malnutrition sévère. Nous avons vu aussi que l'accès aux services sociaux de base dans le centre et le nord du pays est très limité. Beaucoup reste dans les mains des humanitaires, certainement dans les régions de Taoudéni, Tombouctou, Kidal, Menaka, mais aussi à Gao et même à Mopti. Ce que nous avons vu aussi, ce sont pour la sécurité alimentaire, nous avons plus que 4 millions de personnes qui sont en besoin. Et puis le PAM, la FAO et l'UNICEF sont très engagés avec les partenaires de faire faire face à ces défis, tout en prenant en compte que nous sommes là pour soutenir aussi les actions du gouvernement dans ce domaine avec le CSA et les différents ministères. Nous sommes très très concernés parce qu'en 2017, le Mali n'a pas eu l'attention de la communauté internationale sur le plan humanitaire. Ça veut dire nous avons eu un sous-financement presque partout dans chaque secteur, y inclus la sécurité alimentaire.
Mais pourquoi
Pourquoi
cela, oui?
Oui, parce que je crois aujourd'hui nous avons une compétition entre les crises. Alors, comme vous le savez, la Syrie est quand même une crise qui est politiquement beaucoup plus attractive pour certains bailleurs de fonds. Il y a aussi des crises qui sont beaucoup plus sur la une, malheureusement. Le Mali n'a pas eu cette chance d'être considéré par CNN parfois. Ça veut dire aujourd'hui nous sommes en compétition avec la crise dans la Corne de l'Afrique, avec les famines. Nous sommes en compétition avec la Syrie, avec le Yémen, avec la Centrafrique, avec la RDC. Et puis, ça veut dire la liste grandit, mais les financements sont en train d'être coupés. Okay. Et dans cette optique, nous n'avons pas eu la chance vraiment d'attirer l'attention et nous sommes très heureuses qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on peut éventuellement encore attirer l'attention de la communauté internationale et même des Maliens de se cibler sur le combat contre ces problèmes.
D'accord. Alors, Monsieur Nyang, quelle analyse faites-vous de cette situation-là?
Donc, c'est vraiment dramatique qu'en 2017, début 2018, le Mali se retrouve confronté à ces problèmes. Ça fait plusieurs décennies que le Mali est vanté comme une agriculture potentiellement très forte dans la sous-région. Mais on n'arrive pas à nourrir nos propres citoyens. Chaque 4-5 ans, c'est des problèmes récurrents et on a l'impression que nous ne tirons pas les leçons. Les problèmes sont structurels. Le Mali est un grand pays avec plusieurs zones climatiques et agroécologiques, techniquement. Même le changement climatique ne touche pas tout le pays en même temps. Donc, normalement, le Mali doit être une économie agricole, un pays beaucoup plus résilient à ce genre de choc. Donc on pourra rentrer dans les détails de façon thématique des problèmes et des pistes de réflexion. Mais mon premier sentiment, c'est un sentiment de déception. En même temps, l'Office du Niger a annoncé des records de production. La CMDT se vante qu'on est retourné numéro un producteur de coton. Et dans l'autre sens, on a des humanitaires qui disent qu'il y a 22% des Maliens, 4,1 millions de Maliens qui sont en situation de sécurité, d'insécurité alimentaire.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû voir venir. C'est quelque chose qu'on voit venir aujourd'hui. Et il faut que des mesures soient prises pour que, dans certaines zones, c'est encore plus que ça, parce que ce n'est qu'une moyenne. Donc la situation est beaucoup plus criarde au centre du pays, dans certaines régions du nord du pays. Il faut agir. Donc l'interprétation n'est pas... Le climat change, le climat est cyclique. Dans un certain temps, il est prévisible. Mais un pays dont la croissance économique est... La prospérité alimentaire dépend de la pluie est un pays essentiellement qui joue tous les jours à la roulette russe, qui joue tous les jours au PMU. Et ça, c'est très risqué de mettre des millions de ses citoyens à la merci d'une bonne pluie ou d'une mauvaise pluie.
D'accord. Alors, monsieur, vous voulez réagir par rapport à cela?
Oui, peut-être aussi à ajouter, comme il parle de la situation dramatique. Alors, le Mali est quand même un pays assez pauvre. Si on regarde le HDI, le Human Development Index, alors c'est un des pays les plus pauvres. Ça veut dire qu'il y a une pauvreté chronique entre la population. Ça veut dire que la résilience est déjà assez bas pour gérer n'importe quelle petite problématique qui s'ajoute.
D'accord. Alors, M. Aïdara, est-ce le cas à Ansongo?
Bonsoir. Effectivement, à Ansongo, contrairement à la campagne 2016-2017, celle de 2017-2018 a été caractérisée par un retard dans l'installation des tuyaux, leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace, ainsi que l'air arrêté précoce, c'est toute l'étendue de ça. À cela s'ajoute aussi la faiblesse de la pluie que nous avons constatée cette année, qui était comparée à celle de 1984, et avec la présence des défrayeurs. Néanmoins, les paysans, les braves paysans, ils n'ont pas baissé les bras. Compte tenu de la situation, il fallait aussi y faire face. C'est ainsi que les emblasures que nous avons reçues, les réalisations dans l'ensemble, elles sont quand même satisfaisantes. Parce que nous sommes dans un cercle où il y a 7 communes, il y a 4 communes riveraines et 3 communes nomades. Sur les 3 communes nomades, il y a 2 communes aussi qui font de la BNP d'agriculture, c'est-à-dire des coupures sèches, les mules de sorgho et les niébis. Mais dans la vallée, en plus de cette étude, il y a aussi la grande spéculation qui est les riz. Et les riz aussi se divisent en 3 systèmes. Il y a un système de maîtrise totale, ce que nous appelons le petit périmètre irrigué. Et nous avons la submersion libre, ça c'est de façon traditionnelle. Et nous avons aussi ce que nous appelons la submersion contrôlée, c'est-à-dire que là, il y a des aménagements où il y a un en aval et en amont. Et donc l'eau est à peu près aussi à ce niveau maîtrisé. Donc, les chiffres que nous avons reçus après notre suivi de la campagne, c'est qu'elle nous paraît encore provisoirement une campagne moyenne vu les résultats du riz. Malgré ces contraintes, parce que les paysans, face au changement climatique, ils ont changé aussi le système. C'est-à-dire qu'une fois que, avec le grand retard des pluies, le calendrier est arrivé, il fallait cultiver et arroser avec les motopompes. S'il pleut, c'est bon. S'il ne pleut pas aussi, en tout cas avec les irrigations, les gens sont arrivés quand même à avoir quand même un peu de riz. Mais le déficit est toujours là. Il faut combler. Nous sommes le cercle de population de 111 540, avec à peu près un besoin céréalier de plus de 36 000. Et encore, en tout cas, les chiffres provisoires que nous avons nous permettent, parce que nous sommes contraints aussi avec l'EAC, c'est-à-dire l'enquête agricole de conjoncture qui confirme dans un cadre harmonisé avec les autres partenaires de donner les vrais résultats.
D'accord. Alors, Madame Collins, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des zones les plus touchées?
Bon, ce que nous avons constaté sur la problématique malnutrition et l'insécurité alimentaire, ce sont des régions de Tombouctou et Gao. Et pour nous, nous incluons encore les régions de Tao Déni dans Tombouctou, étant donné que nous n'avons pas encore les informations sur Tao Déni en tant que région. Menaka est inclus dans la région de Gao pour nous aussi. Et malheureusement, ce sont les 2 régions où on va maintenant cibler ce que nous avons reçu de notre siège, un soutien d'urgence pour faire face à certains éléments de cette crise. Nous sommes très très concernés et peut-être je peux vous partager quelques exemples que j'ai vécu quand j'étais dans le Uroni de Gao il y a quelques mois, où j'ai rencontré des femmes avec leurs enfants malnutris qui sont arrivés en retard. Ça veut dire normalement les femmes arrivent en retard parce que elles ont beaucoup de travail à la maison, elles ont d'autres enfants, elles ne peuvent pas risquer de faire le trajet, elles n'ont pas l'argent pour le faire, sauf s'il y a vraiment urgence. Ça veut dire on attend très longtemps. On fait aussi les visites vers les marabouts pour essayer de guérir les enfants et parfois les interventions ne fonctionnent pas. Et ça veut dire les femmes reçoivent des conseils qui sont en fait contrariants. Ça veut dire les femmes arrivent avec leurs enfants, dernière étape de la malnutrition, qui peut être traitée plus tôt. Seulement pour vous montrer, il y a un aspect de manque de compréhension, de manque d'éducation, de manque de compréhension comment se comporter si un enfant tombe malade, et certainement des bébés pour lesquels c'est très très dangereux rapidement s'il y a une diarrhée qui se développe, pour éviter alors le pire. Et c'est là où nous avons parfois dans les urénies alors les cas qui sont tellement situations dramatiques qui seront à éviter. Mais par contre, avec cette manque de compréhension, d'éducation et aussi manque de l'argent, alors c'est une priorisation pour la femme. Est-ce que je dois me déplacer jusqu'au centre urbain qui fait peut-être 50 kilomètres? Je dois organiser le transport. Je dois aussi organiser quelqu'un à la maison qui gère la maison, n'est-ce pas, pour le reste de la famille, qui gère le travail sur le champ et autres. Alors, ce sont des éléments qui sont assez importants aussi à gérer. C'est là où une intervention est nécessaire pour inclure, pas seulement le don de nourriture. Alors ça, c'est, comme on le dit pour les humanitaires, ça c'est pour sauver les vies. Ça, c'est ce que nous faisons. Mais on parle plutôt des problèmes structurels qui sont à éviter pour qu'on peut en fait éviter de tomber dans une crise humanitaire. Il y a des éléments qui sont gérables, mais avec cette complexité de votre crise, avec l'insécurité d'un côté, avec manque d'accès dans certaines zones pour les enseignants par exemple, et le personnel de sanitaire qui est aussi menacé dans certaines zones, alors ça reste relativement faible, une approche voilà, inclusive.
D'accord. Alors, M. Nyang, pensez-vous qu'il y a-t-il d'autres zones concernées, excepté ceux que Mme Collès vient de citer?
Oui, donc nous, on évolue un peu dans la région de Ségou. Et il y a certains endroits où ils disent que le niveau du fleuve a tellement baissé que peut-être qu'il n'y aura pas de contre-saison. Et la contre-saison permet de stabiliser les prix. Ouais. Donc, soit le gouvernement va te donner des subventions pour qu'on puisse importer des biens, ce qui est mauvais pour l'économie à moyen terme, qui est horrible pour notre balance commerciale à court terme et qui suffoque le développement d'initiatives locales, mais souvent il faut sauver des vies. Ouais. Où les prix vont flamber. Et une fois que les prix flambent, les gens qui sont dans les zones urbaines, qui ne sont pas des cultivateurs, qui ne sont pas des éleveurs, eux aussi vont souffrir de la qualité de ce qu'ils vont manger. Ils vont diminuer la quantité. Et ça va renforcer de l'instabilité sociale. La paupérisation peut s'installer encore plus, surtout en période électorale où il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, tout le Mali est peut-être touché par rapport à la disponibilité et aussi au prix. Une fois que les prix montent, tout le Malien est impacté. Donc, il faudrait faire attention et surveiller ça de près.
D'accord. Alors, M. Aïdara, êtes-vous avec nous?
Et je vais aborder dans le même sens que l'intervenant, le dernier intervenant, pour dire que, effectivement, la stratégie, parce que les gens sont dans la maîtrise totale dans nos zones, et ce que nous constatons, c'est que d'année en année, ces initiatives sont quand même avancés. Il y a deux saisons. Il y a ce que nous appelons la contre-saison et ce que nous appelons aussi la saison, la maîtrise totale. En faisant contre-saison, ça peut quand même atténuer la paupérisation et les gens. C'est-à-dire que les gens auront un peu à manger en attendant les choses. Donc cette tendance doit changer. C'est-à-dire qu'il ne serait plus de l'urgence venir donner quelque chose aux gens, mais il faut les appuyer dans ce qu'ils sont en train de faire, ce que nous appelons la résilience. Il faut les appuyer. Si ce périmètre, le problème qui existe, c'est qu'il faut avoir des semences de qualité, des semences certifiées. Il faut aussi des appuis en motopompe. Parce que pour la plupart, c'est les grands périmètres ou bien les petits périmètres, ils n'ont pas de motopompe. Donc une fois qu'ils ont la semence, ils ont les motopompes, ils ont les engrais, et même ils peuvent faire quelque chose pour quand même maîtriser une certaine partie, parce que au nord, quelles que soient les récoltes que nous avons faites, bien sûr en Songo, c'est le grenier quand même de la région, mais quel que soit, même en année normale, ce que nous produisons, c'est que ça ne dépasse pas les 3 ou 4 mois dans l'année. Et tout le reste là, il faut faire de façon chose. Donc dans la stratégie, la tendance doit aller vers l'appui de ces périmètres-là.
D'accord. Alors, Madame Collins, est-ce que vous pouvez nous dire, nous citer un peu quelques causes de cette insécurité alimentaire, excepté l'insécurité dont vous avez fait mention tout de suite?
Bon, je crois que ça fait très longtemps que le Sahel tout ensemble gère les conséquences du changement de climat. Ça, c'est un de ces causes-là. Problématique ajoutant les conflits dans toute la zone, ça veut dire avec un manque d'accès dans certaines zones. Aussi, les zones géographiques, si on regarde où on peut en fait planter, c'est limité. Est-ce que ces zones sont accessibles? Comme vous avez dit pour Ségou, il y a certains niveaux de fleuves qui est en train de baisser. Il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ça, y inclut la logistique, parce que même s'il y a les récoltes, les bonnes récoltes, comme il a cité, alors comment on va distribuer ça au Mali, qui est un très grand pays avec des défis énormes, ce qui concerne la logistique, les routes, voilà, pour la population. Aussi, le comportement culturel. Alors, vous avez une population qui bouge régulièrement dans le nord de ce pays. Vous avez un comportement, une habitude de manger. Alors, il faut un accès à certains intrants et à certains produits. Et puis finalement, si vous regardez les récoltes au sud du pays, beaucoup des fermiers, beaucoup des gens qui plantent exportent en fait. Ils font le petit business, n'est-ce pas, à travers la frontière pour gagner plus. Et ça veut dire que le Mali perd de cette nourriture. Et ça, c'est pas bien. Votre population n'est pas si grande que ça, mais quand même, on parle d'environ 18 millions quand même depuis la dernière censure. Et puis, moi, je pense carrément, si on a seulement le boucle de Niger avec les possibilités des récoltes, le sud du pays, mais on a une population dans le centre et le nord qui a aussi besoin de cette nourriture, je crois qu'il y a un mélange des conséquences du conflit. Changement des climats, challenge, défis logistiques qui font que malheureusement vous continuez d'avoir aussi des vagues de famine, des vagues de malnutrition haute et bas.
Mais
et
comment vous expliquez le paradoxe de Sikasso par exemple, où il y a une forte production agricole accompagnée d'une malnutrition aiguë?
Bon, je crois j'ai déjà donné une explication. Alors, il y a beaucoup de gens qui font le petit business à travers les frontières. Ça veut dire la nourriture n'est pas disponible. Il y a aussi la pauvreté chronique. Ça veut dire les gens n'ont pas l'argent pour acheter. Ça veut dire ce sont seulement les producteurs eux-mêmes qui peuvent peut-être se nourrir, mais les autres n'ont pas cet argent pour accéder carrément la nourriture. Je ne sais pas, peut-être lui il a d'autres explications.
D'accord, oui, Monsieur Niang, vous avez quelque chose à ajouter à cela?
Oui. Je pense que les causes immédiates de cette crise, c'est une mauvaise pluviométrie. Mais ça veut juste dire que l'agriculture malienne est à flux tendu. La bonne année, c'est une année de chance, mais de façon systémique, on n'a pas une agriculture robuste, solide, dont on peut perdre 15 à 20% de nos récoltes et ça ne va pas poser problème. Donc ça, c'est un problème. Une voiture qui n'a pas d'airbag n'est pas une voiture. Donc il faut des amortisseurs. Donc il faudrait qu'on repense notre modèle de développement agricole, où il faut aussi s'assurer que les statistiques qu'on nous produit sont correctes. Ça, c'est un vrai problème. Donc peut-être que la façon dont on prend des échantillons puis on extrapole, c'est pas bien, parce qu'une fois sur le terrain, on voit qu'il y a des gens qui ont faim, mais techniquement sur le papier, on a des vrais rendements, on a des vrais stocks. Donc ça, c'est problématique. Mon collègue a parlé tout de suite du problème de transport. Il n'y a pas de route. Mm-hmm. Et quand il y a des routes, il y a des problèmes d'insécurité. Maintenant, avec les gens qui sont armés, qui braquent, qui tuent, qui pillent. Mm-hmm. Il y a aussi le problème du racket, des gens qui sont supposés réguler le transport, qui sont supposés le faciliter. Donc, qu'un conteneur de boubou se fasse bloquer à la douane, on peut comprendre, ça ne se mange pas. Mais un produit périssable, qui peut pourrir, qui se fasse bloquer à tous les postes, ça c'est un geste criminel et antipatriotique. Mais on le dit jamais assez. Et enfin, le coût du transport est élevé. Si on prend la tonne entre 30 et 40 000 francs, c'est cher. Et ça, c'est sans aller dans des régions qui sont un peu plus reculées.
C'est même contre l'humanité. Hein.
On est d'accord. Mais juste pour finir sur un dernier point, on ne parle pas de solidarité régionale au Mali. Il y a des régions qui sont excédentaires. mais tu ne vas jamais voir le gouverneur d'une région ou le directeur de l'agriculture d'une région dire on est excédentaire. On veut, par solidarité, envoyer à une nouvelle région comme Menaka, une nouvelle région comme Taoudéni, qui n'a techniquement même pas d'administration dans sa place. Nous, on a 1000 tonnes à envoyer, on a 2000 tonnes à envoyer par pure solidarité entre Maliens. Ça n'existe pas. Et ça, c'est des concepts civiques et politiques qui n'existent pas dans notre vision, dans notre savoir-vivre ensemble. Et ça, il faut que les gens réfléchissent, il faut que les gens exécutent. Mais le Mali est un pays pauvre sur papier. Le Mali n'est pas forcément pauvre en réalité. La personne qui exporte pour aller à Sikasso, si tu lui expliques, tu vas envoyer en Côte d'Ivoire, mais est-ce que tu es prêt à envoyer 200 tonnes à tel endroit, c'est pour sauver des Maliens ? Il le fera. Mais peut-être qu'il ne va pas payer le transport. Et peut-être que ce camion ne devra pas se faire bloquer par tous les agents tenus sur la route, parce que c'est un camion pour la solidarité malienne.
D'accord. Alors, M. Aïdara, que pensez-vous de ces concepts civiques que M. Niang vient de nous exposer tout de suite?
Effectivement, je vais abonder, mais dans un autre sens. Moi, je dirais que le problème, c'est un problème de pluie. Et face à un problème de pluie, donc une faiblesse de pluie, face à la situation, on doit aller vers les aménagements. Il y a les aménagements pour un développement durable. Parce que nous constatons ici, au nord, la plupart de nos plaines ne sont pas aménagées. Et nous, nous pensons qu'une fois que ces plaines sont aménagées, et les gens, avec le nouveau système de maîtrise totale et de submersion contrôlée, en tout cas, les quantités d'eau tombées peuvent être récupérées de façon judicieuse et être utilisées. Parce que pour la maîtrise totale, s'il y a l'eau dans le lit du fleuve du Niger, c'est que nous pouvons exploiter cette eau. Et une fois que nous exploitons cette eau, comme je l'ai dit auparavant, si nous avons les sémences sélectionnées, nous avons les motopompes et autres, avec la formation des producteurs, nous allons vraiment avoir quelque chose de substantiel. Sinon, dans une zone d'insécurité, nous ne faisons pas plus concernés en réalité. Et j'ai parlé de cette commune, mais les trois communes, nous ne pouvons même pas les encadrer. C'est petit à petit, jusqu'en 2016 encore, on ne pouvait pas s'y rendre. Et encore en 2017, que nous avons constaté que les agents peuvent aller faire un suivi et revenir. Sinon, c'est vraiment compliqué. Et il y a une forte concentration au niveau des CEP, même si que le personnel aussi est encore insuffisant. Nous, nous pensons qu'avec les aménagements, encore, les ratios d'agents que nous avons, nous pouvons encore maîtriser encore la situation et pouvoir quand même avoir des choses.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette solidarité entre les régions que M. Niang nous a fait part tout de suite?
Oui, la solidarité, bon, vous savez, la solidarité, il doit y avoir la solidarité entre les régions. Mais si nous prenons le cas de Taoudéni et de Menaka, effectivement, c'est des nouvelles régions qui ont été créées. Menaka, j'ai fait que Menaka, il n'y a pas de production. Tout ce qui se mange à Menaka, soit des mûres du sud, c'est des sorgho du sud, ou bien le récolte de riz dans Songo, des brumes et des gaours. Ça, c'est que là, ou bien du riz emporté, là-bas, il n'y a pas de production. Donc, déjà, tout ce qu'ils consomment, c'est que ça quitte, c'est leur zone de production. Ça, c'est une réalité. Et maintenant, c'est à l'État et aux décideurs de rétablir davantage ce pont qui est déjà là et il faut exploiter.
D'accord. Oui, allez-y.
Je peux réagir à ça parce que je suis à la base allemande et l'Allemagne, c'est un État fédéral. Nous avons exactement ce système-là. Sauf que chez nous, c'est en fait un échange de l'argent. Ça veut dire des régions qui sont plus riches paye pour un peu pour les régions qui sont plus pauvres. Et vous vous rappelez certainement de chute de notre mur. Et après le chute du mur, c'était tout l'Ouest qui a dû payer pour en fait stabiliser et développer l'Est du pays. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez important. Pas seulement parce que je suis allemande, je suis maintenant 30 ans en Afrique. Et je crois carrément, nous avons une possibilité en Afrique, parce que je suis aussi d'accord, le Mali et beaucoup des pays africains ne sont pas pauvres. C'est la population qui est pauvre, n'est-ce pas? Parce que vous avez des ressources, vous avez des revenus. Mais par contre, je crois qu'il y a un problème de vraiment partage, n'est-ce pas, d'avoir une vraie, si vous voulez, patriotisme, une vraie nationalité, en disant, voilà, nous voulons nous aider. Alors, ce que nous produisons dans le sud du pays et le centre du pays, on peut partager, n'est-ce pas, avec ceux qui ne peuvent pas même développer ça, parce que même s'ils veulent, c'est pas possible. Et ce système existe dans d'autres pays, je suis sûre, c'est pas seulement l'Allemagne, mais comme je suis de là-bas, je le connais très bien, et je pense que c'est quelque chose qui marche.
Je voulais juste rebondir sur ce que le collègue de Ansongo avait dit. Il faut investir dans les périmètres. Et il y a un chiffre, il y a deux chiffres qu'il faut prendre en considération. Le gouvernement consacre 15% de son budget au domaine, au secteur agricole, ce qui est un des plus élevés en Afrique. On est les seuls peut-être à le faire, on est quelques-uns. Mmh. Et c'est super. Mmh. Mais quand on regarde du côté du secteur privé, moins de 1% des investissements du privé sont dans l'agriculture. Là où l'État met 15%, le privé ne met même pas 1%. Mmh. Cela veut dire quoi ? Que le secteur agricole a des vrais handicaps. Parce que l'État a ce qu'on appelle des fonds perdus. Il faut dépenser. Mais le privé veut un retour sur investissement. Donc si le privé ne va pas dans ce secteur, c'est que ce secteur est très, très difficile. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ce secteur ? C'est le foncier. Si on va aménager les plaines, l'office du Niger, à qui ça appartient ? Si tu vas investir des centaines de millions ou des milliards dans l'office du Niger, on te donne un bail. Est-ce que ça appartient à l'office ou est-ce que ça appartient aux populations riveraines qui étaient dessus? Si tu vas aller aménager en Songo et que tu n'installais pas des motopompes mais des pompes solaires, un système qui sera beaucoup plus rentable, beaucoup plus écologique, beaucoup plus performant, mais qui demande 7-8 ans de stabilité juridique, foncière, sécuritaire, économique, personne ne le fait. Donc toutes ces villas qu'on construit à Bamako, étage sur étage, pour apporter des loyers dérisoires.
Mais qu'est-ce qui explique cette situation alors ?
L'État et les communautés, les collectivités, les mairies, les gouverneurs doivent arrêter avec l'insécurité foncière. À un moment ou à un autre, il faut décider. Il faut répartir les terres. Certes, vous n'avez pas d'argent, parce que l'État n'a pas d'argent. Mais dans tous les pays qui se sont développés, en Asie, en Amérique latine, en Amérique, tous les pays qui ont une agriculture maouze et les pays qui ont tué leur agriculture, c'est un problème foncier. Le Zimbabwe est passé d'un pays très riche à un pays qui vivait d'aide alimentaire parce que le foncier a été géré de façon totalement irresponsable. Donc, le Mali est un grand pays. Aucun titre n'appartient à personne. Il y a toujours des litiges. Il y a toujours des violences qui sont liées aux foncières. Et la plupart de la crise qui se passe dans beaucoup d'endroits du Mali, qu'on dit c'est l'insécurité, c'est des litiges fonciers. L'instabilité du centre du Mali a commencé entre des communautés nomades et sédentaires qui se sont entretuées sans que l'État ne puisse les calmer pour des raisons de pâturage. Donc, soit on distribue le foncier avec des papiers clairs, avec un cadastre numérique où il n'y a pas de triche, où les juges jugent rapidement avec droiture, où personne dans le privé ne va investir, l'État n'a pas l'argent pour investir, les organisations internationales ne sont pas leur, c'est pas leur mandat d'investir de cette façon dans le domaine agricole, et on passe tout notre temps à faire la danse du ventre pour les investisseurs étrangers en disant que le Mali a 2 millions d'hectares dans l'office du Niger, mais on les a depuis les années 40 et personne n'est venu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que c'est pas attractif. À un moment, il faudrait qu'on se dise la vérité.
Comme je suis de retour du Zimbabwe et je suis moitié zimbabwéenne, alors je suis ravie que vous avez cité ça parce que je pense dans cette problématique on a besoin de la vision et d'une leadership politique qui est important pour décider vraiment avec une idée comment gérer pas seulement la terre mais aussi la production et traduire la compétence à ceux et celles qui gèrent la terre. Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'il est arrivé chez nous, je le dis maintenant de l'autre côté du Zimbabwe, c'est en fait la terre était gérée par les gens qui peuvent seulement gérer un petit espace et pas des fermes commerciales.
Mais est-ce que les populations sont-elles conscientes que certaines de leurs actions contribuent à la dégradation de cette situation?
Non, peut-être ça encore.
Les populations, est-ce qu'ils sont conscients du fait que certaines de leurs actions contribuent à la dégradation de cette situation-là?
Bon, il ne peut pas faire autrefois, il me semble. J'ai déjà cité une question de manque de compréhension et d'éducation liée à la malnutrition. Je crois qu'il y a aussi dans ce domaine-là un investissement à faire pour améliorer les capacités et les compétences. Mais une population qui est poussée dans la pauvreté aiguë, ils n'ont pas des choix. Alors, ils continuent de faire qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre. Et puis, ça veut dire qu'ils ont parfois des comportements qui ont un effet négatif sur l'environnement, négatif sur même le temps étendu. Alors, ça veut dire aujourd'hui, ça peut vous donner quelque chose, mais dans 2 mois, 3 mois, ça sera terminé et cet espace que vous avez utilisé est complètement gâté.
Donc, on peut parler de questions de changement climatique ici.
Oui, oui, oui.
Oui, M. Niang, vous voulez réagir par rapport à ça?
Oui, il faudrait ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance dans la tête des gens. Il faudrait leur expliquer que votre contribution à la société, les agriculteurs, les éleveurs ont un rôle très important. Ils ont un rôle de sécurité alimentaire à jouer. Quelqu'un qui doit nourrir le reste du pays, nourrir une sous-région qui n'arrive pas à se nourrir, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'ils aient l'esprit commercial et entrepreneurial et leur dire que le travail paye. L'investissement paye. Celui qui a un cheptel de 100 moutons, 100 chèvres, avec des vaches, va se retrouver dans des situations d'insécurité alimentaire. Parce qu'il ne considère pas le cheptel comme un business où il peut vendre, ça peut se multiplier, il peut améliorer la race. Donc il faut des actions où on pourra installer des unités de démonstration.
Oui.
C'est plus facile de montrer à quelqu'un quelque chose que de lui expliquer avec des campagnes de sensibilisation dans le village et des brochures sur papier. Si tu construis une ferme moderne dans la zone de Tombouctou pour produire des produits horticoles et qu'il voit que tu es en train de produire 60, 80 tonnes de tomates par hectare, il va se demander comment on fait pour arriver là. Ben, il te faut une pompe solaire. Il faut que tu sois sérieux, il faut que tu aies assez de travailleurs, il faut que tu payes tes travailleurs. Et il faut adhérer à une coopérative, il faut que tu commences à t'alphabétiser. C'est pour toi-même que tu le fais, que ce soit en arabe ou que ce soit en français. Et tu auras la même chose que ce que tu vois ici dans quelques années. Peut-être en plus petit ça. Donc il faut montrer aux gens, et il faudra délocaliser des centres de formation avec des unités de démonstration. Et moi, j'ai confiance au Malien. Le Malien est un entrepreneur, le Malien est un commerçant, le Malien est un cultivateur. Mais à un moment, il faudrait redonner espoir aux gens et que les gens n'aient pas l'impression que c'est la pluie et c'est Dieu qui décide.
D'accord. Alors, M. Aydara, partagez-vous le même avis sur les méthodes que M. Niang vient de nous avancer tout de suite?
Moi, je dirais que l'État... puisqu'il y a déjà des ressources, des compétences qui sont là, parce que avec le profil des spécialistes en vulgarisation agricole qui est créé à l'État de Kassidougou et les brevets des techniciens qui est créé à Samankou, aujourd'hui nous avons des compétences nécessaires sur le terrain qui ne sont pas en train d'exploiter. Le développement du secteur agricole doit être accompagné d'un service agricole avec ses moyens. Ses moyens, parce que c'est avec les innovations techniques, qu'on peut changer, qu'on peut augmenter la production. Aujourd'hui, moi je suis spécialiste de la vulgarisation, en plus de diplôme, je suis spécialiste de la vulgarisation. Et beaucoup de mes agents sont sortis de ces écoles et nous sommes là, vraiment les gens, nous pensons qu'avec ce système, avec toutes les ressources sont là, si on fait les aménagements, on met les moyens à la disposition de la vulgarisation, et que ça soit un véritable service qui se met jusqu'à la base, et les gens suivent, ça peut changer les choses. Je suis d'accord que les ressources sont là, les ressources humaines sont là, le potentiel, il y a des potentiels énormes au nord. Donc ça devient d'être aménagé, d'être capitalisé, que les gens en profitent.
D'accord. Alors, Madame Colite, malheureusement, le temps nous fait défaut. Quelles sont les solutions pour faire face à cette situation, selon vous? Surtout que 2018 est annoncé un peu plus sévère.
Bon, je crois que nous avons déjà montré certaines solutions. Alors, première chose, c'est assurer que la capacité sera augmentée, la compétence sera augmentée. Nous devons aussi travailler beaucoup plus au niveau intersectoriel pour assurer que nous avons vraiment une valeur ajoutée sur ce qui se passe. Une harmonisation des différentes interventions est nécessaire. Mais bon, tout au début, il fallait que dans certaines zones, l'accès doit être facilité. Nous avons aujourd'hui, en 2017, constaté que les contraintes d'accès pour les humanitaires ont carrément doublé depuis 2016. Et ça veut dire, nous avons dans les journaux chaque jour les attaques à droite et à gauche sur les civils, sur la MINUSMA, sur les pharma, sur les policiers, sur les enseignants, les assassinats et tout ça. Mais les humanitaires sont aussi dedans. Même si nous ne sommes pas ciblés en tant que comme la MINUSMA par exemple, mais nous avons malheureusement beaucoup de contraintes d'accès liées aux raquettes, liées aux coupeurs de route, la criminalité aiguë, et vous avez vu en 2017, certains d'entre nous ont dû interrompre leur travail dans certains cercles et régions. Ça veut dire que ça a un impact. Troisième chose, il faut augmenter le plaidoyer à travers la communauté internationale. S'il s'agit de sauver des vies, il fallait que nous recevions l'argent. Alors, il faut aussi convaincre l'État de mettre en œuvre l'accord. Alors, ce sont des quatre points que le nouveau Premier ministre a soulignés. Assurer la sécurité, investir, n'est-ce pas, dans les services sociaux de base, adresser les questions sociaux. Je crois que c'est ça ce qu'il faut. Et à un moment donné, on peut seulement, après un conflit comme nous avons vécu ici, ça va seulement se mettre en route petit à petit. Alors, ça ne sera pas tout de suite que tout le Mali aura tous les enseignants, tous les médecins, tous les infirmiers et tout ça. Mais par contre, on peut commencer à réfléchir comment harmoniser, assurer une complémentarité et faire des priorisations.
D'accord. Et vous, M. Nyang, que pensez-vous des solutions?
Donc, moi, je vais donner peut-être deux ou trois solutions. La première, c'est... On remercie la communauté internationale de venir à notre rescousse, parce que si on devait compter sur la communauté nationale ou la communauté régionale, elle n'aura pas lieu. Et c'est de le faire, mais peut-être l'innovation qui peut être faite cette fois-ci, qu'une portion et un prorata de ce qui sera mobilisé sera utilisé pour de l'investissement durable. C'est-à-dire que ce soit pérenne. C'est vrai qu'il y a une urgence énorme, mais on sait que c'est structurel. On va éteindre le feu aujourd'hui, dans 3 ans ça va revenir, 5 ans ça va revenir. Si 5%, 1%, peu importe, seront investis dans des investissements qui vont durer 20 ans. Et ça, c'est en partenariat avec des entrepreneurs locaux qui, eux, quoi qu'il se passe, pourront accéder à leur zone natale ou native.
Ok, mais comme Mme Collins vient de le dire, est-ce que vous pensez que le gouvernement pourra élever ces défis-là?
Maintenant, au niveau du gouvernement, on a un commissaire à la sécurité alimentaire qui, normalement, son travail de prospective aurait dû, dès les premières pluies ratées, aurait dû tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai que c'est pas lui qui a la tête de ce combat, et c'est dommage. C'est lui le premier qui aurait dû dire, franchement, on a des problèmes, très tôt. Il l'a dit, mais pas... Il doit le dire bien avant, parce qu'il est dans la prospective aussi. Maintenant, est-ce que lui, à son niveau, nationalement, on est capable maintenant... d'aller chercher là où il y a vraiment la valeur ajoutée. Parce que le Mali fait quand même 6, 7, 8% de croissance économique par an. Donc il y a des entreprises, il y a des secteurs qui sont très très rentables. Est-ce que ces secteurs, que ce soit le secteur minier, le secteur bancaire, le secteur des télécommunications, est prêt à mettre en place un fonds national d'urgence et faire une donation nationale à des gens comme OCHA ou à la Direction nationale de l'agriculture ou au CSA même? On veut voir ça. Ça c'est totalement différent. C'est des choses qu'on n'a pas vues. Et enfin, au niveau régional, Est-ce que la CEDEAO va se mobiliser? Est-ce qu'il y a des pays qui ont été excédentaires cette année? Parce que la roue tourne. Les effets climatiques sont séquentiels. Donc, on veut voir des actions à l'échelle internationale, que les acteurs internationaux investissent plus dans les jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont sérieux, qui sont natifs et locaux, qui ne sont pas confrontés à des problèmes de sécurité et d'accès. Que le gouvernement mettre en place un fonds national avec les ressources que nous avons, donc une redistribution beaucoup plus juste et beaucoup plus saine. Et enfin, à l'échelle régionale, on parle de la CEDEAO, on parle de l'UE au moins, que l'argent soit décaissé pour que
malheureusement, le temps nous fait défaut, M. Niang. Merci beaucoup. Cela me fait à ce débat sur l'insécurité alimentaire. Un grand merci à nos invités, Ote Kolit, chef du bureau OCHA au Mali, Abdul Wahab Aïdara, chef secteur agriculture dans Songo, Mohamed Ali Niang, socio-entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, et malheureusement, à la dernière minute, M. Mamadou Diouara n'a pas pu nous rejoindre. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Sedumbo. La régie vidéo est assurée par Noundjiré. C'est une réalisation et une coordination de Mohamed Touré.
Le grand dialogue,
Sigi Kafoba
et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry,
Haloud Mandi.
Chienne Berry, Sigi Kafoba.